Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en avril 2016 et vous écoutez le 75e épisode chronique de Proxy Jeux. Et nous allons vous parler de jeux de société. Oui, je dis nous, car cette fois, je suis accompagné de Père Castor. Salut Père Castor.
Salut Dédé, merci beaucoup pour ton invitation. Mais je suis surtout là pour éviter tout spoil de ma chronique, comme ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent.
Ah, mais c'était important de savoir qu'il était à 106e, c'est ça, de tête.
Ah, mais du coup, je suis sûr que le niveau d'audience a baissé suite à ton spoil.
Ah, mince. Mais c'était pas un spoil de Game of Thrones, donc ça va, quoi.
Voilà, c'est excusable alors.
Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et toujours un grand merci à nos Patreons de nous soutenir pour ce podcast. Qui donc d'ailleurs, tu as eu un micro récemment qui marche nettement mieux, tu me disais tout à l'heure.
Alors normalement, vous avez entendu la différence à partir de la chronique sur Alien Frontiers. Normalement, il y aurait moins de souffle et on entend moins de bruit. Donc, j'espère en tout cas que la qualité audio s'en ressent.
Après, la qualité de tes chroniques, c'est que à toi qu'on peut faire confiance, quoi.
Ouais, j'essaie de faire le maximum.
Non, mais c'est très bien. Et donc, on va commencer tout de suite donc avec Cyrus, qui a enfin fini de nous parler de Maudite Momie. Non pas qu'il aime plus ce jeu, mais je pense qu'il a déjà fait assez la tournée promo du jeu.
Je pense qu'il va nous le ramener pour le week-end proxy.
Ah ouais, je pense que ça va être son jeu pour l'été. Ah, je vous présente un jeu dont je vous n'ai pas encore parlé, Maudite Momie. Non, maintenant il nous parle d'un jeu sur tablette, bien sûr.
C'est la version iOS.
Voilà. Non, il y en a pas encore. Donc en attendant, il a trouvé un autre jeu. C'est un jeu dans lequel Jacques Barriot nous disait que c'est un jeu dans lequel on combat la chiasse. Voilà, c'est donc Pandémie, qui est sorti sur iOS il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas, tu l'as testé toi ?
Non, je ne l'ai pas acheté celui-là, Bon, j'y joue volontiers en version matérielle.
Mm-hmm. En plateau, quoi.
Voilà, en plateau. Mais je joue assez peu. J'ai acheté quelques jeux en version numérique, hein, mais pas celui-là.
Ok. Ben, on va écouter Cyrus qui nous parle de Pandémie.
Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques, c'est Cyrus. Alors cette fois-ci je vais vous présenter Pandémique ou autrement appelé Pandémie en français. C'est un jeu de Matt Leacock qui a été édité pour la première fois en France en 2008 chez Philosophia. Pandémie donc en français s'est imposé comme un classique qui a connu une appréciable refonte graphique en 2012 mais qui a aussi et surtout connu trois extensions et une multitude de spin-off plus ou moins éloignés de leur aîné. Je citerai L'île interdite ou encore Pandemic Legacy, le récent vainqueur de l'As d'Or Expert et qui est parvenu également à détrôner Twilight Struggle au classement BGG cette année. Et ce en très très peu de temps. Alors Pandémie, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, dans lequel vous allez devoir coopérer pour tenter de sauver le monde. Le monde étant victime de 4 épidémies mortelles. À chaque tour de jeu, vous allez avoir la possibilité de réaliser 4 actions, parmi lesquelles se déplacer, soigner la maladie, échanger des cartes, je vous passe les détails. Chaque joueur incarne un spécialiste qui a une capacité spéciale. Il s'agit clairement d'un jeu d'optimisation dans lequel il va falloir user et abuser de cette capacité spéciale pour se rapprocher sensiblement de la victoire. Cette victoire étant atteinte lorsque vous avez trouvé le remède des 4 maladies. C'est important parce qu'il est possible d'éradiquer les maladies, mais ce n'est pas nécessaire pour gagner. Le jeu a été adapté en octobre 2013 sur iOS par le studio F2Z Digital. Donc F2Z, c'est le rapprochement de Philosophia et Z-Man Game, et donc ils ont créé leur leur entité pour développer les portages sur sur iOS. Donc c'est uniquement disponible sur iOS, il n'y a pas de version Android. On avait entendu parler d'une version à venir d'Onirim, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Et pour le moment, les adaptations côté F2Z Digital ont l'air au point mort. Donc le jeu est vendu au prix de 6,99€. Alors, comment ça fonctionne? On a un tutoriel, ce qui n'est pas négligeable, et surtout une application disponible en français. Et même dans une quinzaine de langues, pour être exact. Il existe donc un tutoriel, comme je le disais, qui est très bien fait. Il va vous expliquer les règles du jeu et vous guider pas à pas dans votre première partie. Au bout d'un moment, vous avez, en fait, vous avez un ensemble d'aides contextuelles qui vont vous expliquer les règles, qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc au début, vous allez être très guidé, et au bout d'un moment, vous allez être un peu plus lâché. On va vous dire, par exemple, arrangez-vous pour arriver à tel endroit, et puis à vous de voir avec ce que vous avez de disponible, les capacités de vos personnages, etc., pour vous rendre effectivement à l'endroit et soigner la maladie. Donc je trouve vraiment très très bien fait. C'est pour moi, c'est un modèle du genre. En ce qui concerne les modes de jeu, on va pouvoir jouer en local et uniquement en local. Et oui, impossible de jouer en ligne. Alors on aurait pu imaginer peut-être une version en ligne avec la possibilité d'un chat, ce genre de choses. Visiblement, F2Z a choisi la simplicité, donc on a une application qui ne possède qu'un mode de jeu en local. Donc vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs. Alors en fait, ça c'est le nombre de personnages que vous pouvez incarner, mais vous pouvez tout à fait jouer seul. Incarner 2 à 4 joueurs et vous pouvez tout à fait jouer à 2 et jouer 4 personnages, il n'y a absolument aucune contrainte là-dessus. Et l'avantage, c'est que comme c'est coopératif, on peut tous jouer sur le même sur la même tablette, il y a absolument aucun problème avec ça. Il n'y a pas besoin de cacher des choses, voilà, tout est visible. Alors vous avez la possibilité de jouer sur 3 niveaux de difficulté, il y a un niveau d'introduction, un niveau normal et un niveau héroïque, je crois qu'il s'appelle. Donc on retrouve les 3 niveaux de difficulté qui sont possibles dans Pandémie, le jeu classique, le jeu en carton. La possibilité de choisir un nom, de choisir le personnage que vous allez incarner, ou de choisir de façon aléatoire. L'application met également à votre disposition 2 extensions. Alors en fait, il s'agit d'une partie de la première extension du jeu, de Au seuil de la catastrophe, mais uniquement les rôles d'un côté, et uniquement le défi de la souche virulente de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir acheter soit les rôles qui sont disponibles dans la boîte Au seuil de la catastrophe, soit le défi de la souche virulente. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas disponible le défi de la mutation ni le défi du bioterroriste. Le bioterroriste, je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement, c'est une partie qui aurait pu être traitée, qui aurait pu être gérée par l'IA, typiquement. Même si je sais pas si c'est l'extension la plus intéressante. Après voir que les extensions sont découpées en 2 à 2€ pièce, donc 1,99€ très exactement, là je trouve que ça fait un petit peu vache aller quand même. Même si je doute pas qu'il y a du travail derrière. 1,99€ les rôles et 1,99€ le défi de la souche violente à côté, ça me paraît quand même un petit peu abusé. Bon, voilà, ça a le mérite d'exister, à voir s'ils vont continuer à développer les extensions suivantes. Ce serait intéressant. En ce qui concerne le gameplay et l'ergonomie, l'interface est absolument bluffante. On retrouve tous les éléments, on peut zoomer, dézoomer la carte, on peut régler quelques paramètres, comme le fait d'inclure une pause entre certaines étapes de l'épidémie, par exemple. On a également à notre disposition tous les éléments visibles sur l'écran. On va pouvoir consulter les cartes des joueurs que les joueurs ont en main. Si on clique sur la carte, ça va nous amener sur la ville en question. On a de disponibles également les pouvoirs des personnages. On a un accès aux règles. Alors les règles en revanche sont... sont pas tip top, hein. Honnêtement, on a un détail voilà, avec un menu contextuel, et puis on clique sur un menu, ça nous amène sur la partie. Bon, ça pourrait être mieux, mais on a une aide contextuelle à l'intérieur de l'application, c'est-à-dire que on peut jouer avec une assistance qui va nous indiquer les éléments importants des règles au moment pertinent en fait. Et ça c'est vraiment un plus. L'application est soignée, elle reprend les graphismes de la dernière version, ce qui est plutôt appréciable. Et on a la possibilité d'annuler un coup, ça aussi c'est tout à fait appréciable. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, on retrouve des achievements qui sont adossés au Game Center. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'achievements. Bon, pour ceux qui sont fans de ce genre de petits plus, voilà, ben vous en trouverez à l'appel dans l'application. Donc je rappelle les tarifs: 6,99€ pour l'application, 1,99€ par extension. Est-ce que je vous conseille cette application? Alors, malgré son tarif élevé, honnêtement, c'est vraiment sans faute dans cette appli. On retrouve des bons graphismes, une ergonomie bien traitée, un tutoriel efficace. Donc je le conseille à la fois pour les gens qui ne connaîtraient pas le jeu, qui souhaiteraient le découvrir, et également pour les gens qui connaissent le jeu. Bah, pour partir en voyage, honnêtement, que vous jouiez sur la tablette ou que vous jouiez avec le plateau en vrai, ça va pas amener beaucoup de différence. L'avantage, c'est que la mise en place, vous allez la faire très rapidement. L'inconvénient, c'est que les parties vont pas être beaucoup plus courtes finalement, parce que le jeu ne possède pas beaucoup de manipulations. Et au final, dans l'application, vous allez passer à peu près le même temps sur une partie. Voilà, donc vous ne gagnerez pas beaucoup de temps en jouant sur tablette, mais au moins vous allez gagner de l'espace et pour emmener éventuellement d'autres jeux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour un prochain numéro des plateaux numériques. Et d'ici là, jouez bien!
Merci Cyrus pour cette présentation. Donc, Pandémie 6,99€ sur iOS. Et donc Cyrus le conseille, mais moi j'avais juste un petit reproche, c'est qu'on peut pas tricher. Tu peux pas être là et soulever discrètement la carte pour voir la prochaine. Est-ce que... Ah non, c'est bon, c'est...
Moi je me demande s'il y a un effet leader.
Ah, peut-être. Bah, comme c'est juste le plateau, possible que...
Toi tu veux faire un mouvement et il y a peut-être Siri derrière qui va dire non, ne fais pas ça.
Peut-être alors.
Et il t'empêche de bouger ton pion.
C'est le réveil des machines. Non, il y a un meilleur coup. Et après, il joue tout seul.
C'est ça. c'est une version script.
C'est sympa, ça.
Et l'autre jour, tu parlais de Legacy pour je sais plus quel jeu. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y aurait une version iOS Legacy de Pandemic?
Ah, ouais, peut-être. Ouais, pourquoi pas.
Si tu colles des petits stickers sur
l'écran. Non, mais justement, ça permettrait d'avoir ton Pandemic Legacy sur iOS. Il évoluerait au fil des trucs et tu pourrais recommencer totalement avec un plateau vierge à une nouvelle partie, quoi.
Ouais, ça peut être un...
Voilà, c'est à penser. Voilà, je lance l'idée maintenant aux développeurs de Pandemic.
Tant qu'il ne faut pas jeter l'iPad, si jamais tu perds encore de route. Et sinon, est-ce que tu joues à quelques versions d'iOS?
J'ai joué à un moment donné, quand j'avais lancé le chat de proxy jeu, mais maintenant j'ai un peu arrêté en fait. Je joue plutôt à des jeux vidéo en fait. Mais faudrait que je m'y remette, parce qu'il y a des jeux sympas que je sors pas beaucoup, genre Deus, je sors pas beaucoup à la maison, et c'est vrai que sur plateau on pourrait trouver des gens plus enthousiaste pour y jouer.
Il existe sur iOS?
Enfin, pas sur non. iOS, ah, non, sur pas BGA, de mémoire, c'est c'est l'autre, c'est le boîte à jeux.
D'accord.
Toi, est-ce que tu joues? Je te fais une demander.
Alors, j'ai quelques titres sur iOS. J'ai un vieil iPad 2, alors certains jeux rament un petit peu, mais j'ai pas mal joué à Neuroshima X. C'est vrai que c'est un jeu qui se prête bien à jouer contre l'IA.
Ouais.
Et sinon, j'ai fait quelques parties d'Agricola. Ça m'a permis d'apprendre plus facilement le jeu. Et c'est vrai que l'implémentation sous iOS est vraiment pas mal d'Agricola. Je crois d'ailleurs on a eu une présentation.
Oui, je crois qu'ils l'ont déjà présenté.
Et sinon, j'ai aussi pas mal joué à Tigre et Euphrate, qui était présenté en début de saison.
Ok. Moi, j'avais joué à Race for the Galaxy. C'est comme ça que j'avais appris le Le jeu a une avec une version où tu joues contre l'ordinateur directement. Et du coup, en un contre un contre l'ordinateur, les parties, elles s'enchaînent en 5 minutes. T'as fini ta partie, quoi. Parce que l'ordinateur, il réfléchit pas longtemps.
Et tu te fais rétamer ou pas par
Et tu te
l'ordi?
fais bah, les 20 premières parties, bah, ouais, tu te fais rétamer, tu comprends rien. Et après, tu comprends, tu commences à pouvoir gagner un petit peu les parties, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a bien aidé. Mais justement, contre un ordinateur, c'est quand même plus souple parce que tu peux jouer, tu peux t'arrêter quand tu veux, il n'y a personne de l'autre côté de l'écran qui t'attend, quoi.
Ouais, et toujours dans le thème spatial, moi j'avais aussi joué à Eclipse hein, sur
Ah ouais,
iPad.
c'est vrai que là aussi, ça doit être plus. T'as moins de manipulation
Il y a
de
moins de
petits
matos à sortir,
jetons, voilà,
voilà.
parce que j'ai fait une partie quand tu vois la taille de la table. Tu te dis, ah merde, il faut tout ça comme table.
Ma seule partie faite sur plateau, je crois qu'elle a duré plus de 3 heures. Alors c'est vrai que sur la
Ouais.
tablette,
Ouais,
en
ça
une
va quand
demi-heure,
même plus vite,
tu
quoi.
peux venir au bout.
Ok. Et donc, du jeu coop au jeu solo, il n'y a qu'un pas. Et alors, Yannibus nous présente un jeu qui porte le nom du jour durant lequel que vous écoutez ce podcast. C'est vendredi. En fait, il faut que vous écoutiez un vendredi, quoi. J'ai une chance sur 7 que ça marche, quoi. Mais le vendredi, comme il y a moins de boulot au travail, on écoute un petit podcast et il y a plus de chances que ça tombe le vendredi.
C'est ça.
Donc, on écoute Yannibus.
Mais c'est quoi cette vieille?
Sous le buzz par Yannibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si un jeu solo est un jeu de société ou pas, puisqu'il se joue en solo. Moi j'aime bien jouer en solo, d'une part parce que j'ai pas toujours des joueurs sous la main, d'autre part parce que c'est des jeux un peu plus puzzle et j'aime bien, c'est des choses que j'aime bien faire. Souvent les jeux coopératifs peuvent se jouer facilement solo, même si j'ai de toute façon une préférence pour les jeux qui ont été pensés pour un unique joueur. C'est un de ces jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Vendredi de Friedman Friese. Donc dans Vendredi de Friedman Friese, qui est sorti peut-être en 2011-2012, vous incarnez donc Vendredi, qui doit aider Robinson à s'échapper de l'île. À chaque tour de jeu, vous allez devoir, grâce à des cartes qui sont tout d'abord très peu puissantes, affronter d'autres cartes, des cartes danger, qui en fait ont deux faces. La face danger que vous affrontez, et une fois que vous la gagnez, comme dans un deck building un petit peu, vous allez récupérer cette carte, cette fois-ci pour sa puissance, on va dire, pour un tour suivant. Donc ce jeu solo est vraiment pensé comme un deck building, avec des cartes intéressantes, des cartes moins intéressantes, et donc un système de purge pour pouvoir justement optimiser votre main, ou en tout cas votre deck. C'est un jeu extrêmement difficile, j'ai dû faire une bonne dizaine de parties, je pense, avant de réussir à gagner, sachant qu'une fois que vous avez fait donc 3 fois le tour des cartes danger, qui se réduit de plus en plus, puisque vous allez en récupérer au fur et à mesure, sachant qu'entre chaque tour, entre chaque reprise des cartes danger, leur puissance augmente, vous allez devoir affronter 3 pirates qui ont une puissance extrême. Là-dessus s'ajoutent des bonus, des malus, des effets un peu spéciaux, et donc vous avez un vrai puzzle solo à réaliser. La durée de partie, comme tous les jeux solo, est d'une 20aine de minutes. On est vraiment pris dans le jeu. Le format est réduit, donc ça tient dans un petit sac si vous voulez jouer dans le train, dans les transports, etc. C'est vraiment, vraiment un très bon jeu solo que j'ai beaucoup de plaisir à sortir. Une fois n'est pas coutume, j'enregistre cet épisode avec un peu d'avance, donc je n'aurai pas de conseils de proximité à vous donner ce mois-ci. J'espère que vous arriverez à surfer sur le web pour trouver un club, une association ou un événement ludique à côté de chez vous. Ça se multiplie en ce moment. Donc d'ici le mois prochain, jouez bien!
Merci Yannibus. Donc je rappelle Vendredi de Friedman Friese. 13,50 € chez Philibert, à partir de 10 ans et pour environ 30 minutes. Alors, Père Castor, un jeu solo, est-ce que c'est un jeu de société?
Voilà, grand débat. Déjà, il faudrait définir. Faudrait revenir à la définition, c'est quoi un jeu de société?
Ouais, bah ça.
Bah après, Tout dépend. Est-ce que tu as déjà joué à des jeux de société en solo?
Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai joué à l'auberge sanglante, en fait, pour découvrir. J'ai fait une partie solo.
C'est une version solo officielle ou tu as juste joué comme ça en mode schizophrène contre un autre
Non, ça je faisais quand j'étais enfant, quand mon frangin il voulait pas jouer avec moi.
Tu joues au Monopoly tout seul?
Voilà, non, je jouais à d'autres jeux, ouais, mais pas du Monopoly quand même pas. C'était, je crois, Mad, le jeu Mad Magazine. Et ouais, je jouais tout seul, mais faut être un peu schizo, ouais. Non, mais non, c'est une vraie variante solo qui tourne bien aussi sur l'auberge sanglante.
Ah, c'est vrai que les jeux de Pearl Games, il y a assez souvent des variantes solo directement intégrées dans les règles. J'ai joué comme ça à Ginkopolis en mode solo.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une version solo, je l'ai pas testée encore celle-là.
Pourtant, je vois la boîte dans ton armoire.
Oui, mais j'ai joué à plusieurs, mais tout seul, j'ai pas encore testé. En fait, plus tout seul, je fais plutôt du jeu vidéo. S'il faut se mettre. Mais du coup, je joue à des jeux vidéo, mais je suis en contact avec d'autres gens encore. Donc, est-ce que ça redevient du jeu de société?
Bon, t'as pas le matériel sous la main, donc c'est du jeu de société virtualisé, alors on va dire. Non, sinon en variante solo, j'ai également joué à 3, qui d'ailleurs, petit teasing, sera probablement le top 500 BGG de ma prochaine chronique.
Est-ce qu'il est 3 du top c'est à la troisième place, ça peut
non
être,
mais je pense qu'il doit être peut-être 50e. Ils vont peut-être renommer
la ville,
voilà. Ou un multiple de 3, ouais, ça pourrait peut-être aller, ouais. Et en fait, sur BGG, on trouve une variante solo qui s'appelle Le Roi, avec un Y. Et...
Mais c'est pas une variante officielle, je crois pas que je l'ai vue dans les règles.
En fait, c'était une variante faite par un fan, et il me semble qu'elle va être intégrée à la prochaine réédition de 3. En fait, j'ai gardé 3 sous le coude, je vous en ai pas encore parlé, parce qu'on s'était donné comme consigne de vous présenter que des jeux trouvables, édités. Qui sont encore édités.
Enfin, ça, c'est la nouvelle équipe qui s'est donné ça comme règle. Hein. Les anciens, ils s'en foutaient.
Voilà.
On le trouve, j'en ai un dans mon armoire encore depuis.
C'est ça. Et il est sur Ocaseo à 150 euros. Et du coup, en fait, il va être réédité pour SN, normalement.
Oh, mais c'est une bonne nouvelle, ça.
Et du coup, je vous en parlerai dans le prochain numéro. Et donc cette variante solo était intéressante, et sinon j'ai également joué à Archipelago, que je vous ai déjà présenté,
ouais, tu nous as présenté
ça. Et il y a une variante solo officielle également qui permet de s'amuser tout seul lorsqu'on trouve personne qui veut, ou quand on n'a pas forcément le temps d'organiser des parties d'Archipelago,
ouais.
Qui sont...
Ouais, ça dure quand même un peu.
Ouais, c'est un jeu quand même un petit peu costaud. Et sinon dans la catégorie Wargame, j'ai également joué à Conflict of Heroes, de chez Asynchron,
okay.
Où il y a une version solo qui est sortie tout récemment, qui se base sur une IA à base de cartes, et derrière ça utilise des algorithmes génétiques, il me semble, enfin des théories mathématiques assez avancées. Ça permet de jouer avec une IA qui réagit en fonction des actions qu'on réalise.
Okay.
Et ça permet un défi intéressant.
Ok. Ouais, on nous dit sur le chat que ils sont pas pour les jeux en solo.
Ouais, bah disons, c'est la route de secours. Hein, quand...
Voilà. Non, ou pour apprendre une mécanique, pour surtout si tu dois présenter les règles. Moi, sur l'auberge sanglante, c'est moi qui ai présenté à mes amis, donc pour avoir comme ça, j'ai pu voilà comprendre le mécanisme en faisant déjà une partie, quoi. C'est sympa. Et sinon,
coup,
oui.
Du coup, tu déroules une partie entière en mode solo ou tu fais juste
non,
un ou deux tours?
Non, non, j'ai fait la partie entière. Bah, quitte à commencer, autant terminer, voir. Même si mon score devait pas être terrible, mais déjà tu te dis, oh punaise, ouais, ça on peut faire, je vais tenter de faire ça quand je jouerai avec des gens. S'il y a des choses que tu peux moins faire, et du coup, ouais, tu te dis, ah, quand je jouerai avec des gens, je vais tenter ça. Et donc, déjà, tu as une première expérience du jeu, donc tu pars avec un avantage en fait.
Moi, j'avoue que Puerto Rico, je l'avais pour apprendre à y jouer, j'avais fait ça aussi. Je sors le matériel pour plusieurs joueurs et j'essaye d'enchaîner quelques tours pour voir comment ça tourne.
Ouais.
Mais ça, c'est quand j'étais débutant. Non, ça me fait plus peur de lire des règles.
Ok, donc on va passer à la suite. On va passer au meilleur chroniqueur, n'est-ce pas, Père Castor?
Ouais, donc tu vas nous faire un décodé sur quel sujet aujourd'hui?
Non, c'est pas moi, c'est toi, voyons, le meilleur chroniqueur.
Oh non. c'est un peu trop d'honneur.
Et justement, tu t'attaques à un monument du jeu moderne, Puerto Rico. Pourquoi ce...
Ben...
C'était un incontournable, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est... En fait, il est cité tellement souvent. Et bon, c'est un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, hein, en 2002. Et moi, j'ai découvert le jeu de société assez récemment. Et c'est vrai que Puerto Rico, je ne le connaissais pas. Et c'est en regardant un peu les top 500 ou alors les classements sur Trick Track ou alors systématiquement les références qui sont données à ce jeu, je me dis, tiens, ça peut peut-être être intéressant de s'y intéresser. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, de récupérer chez Philibert la version collector anniversaire.
Celle avec la faute de français
sur la couverture. Oui, il manque un petit S. Mais on leur pardonne parce que la couverture est vraiment magnifique et le matériel à l'intérieur est également très sympa.
Ouais, les petits jetons en métal pour faire les pièces d'or, ça change tout, en fait.
Et aussi, on n'a pas juste des simples cubes en bois pour les matériaux et pour les marchandises, mais on a des vraies caisses qui sont un peu ciselées. Et également, les graphismes sont sympas. Parce que dans la version de base de Puerto Rico, on va dire, c'est un peu austère, c'est un peu fonctionnel.
Ouais.
C'est très allemand.
Ah oui, mais on fait, c'est pas l'expérience de jeu est quand même là, quoi.
Voilà, ouais.
Ok, on va t'écouter.
Voilà, du coup, au moins on n'a pas spoilé le classement
voilà.
Avant le démarrage de la chronique.
Salut les joueuses et salut les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Ce mois-ci, la chronique vous emmène encore en voyage, mais rassurez-vous, nous resterons sur notre bonne vieille terre. Par contre, nous allons faire un petit bond dans le temps d'environ 500 ans, dans le passé, et nous embarquer vers les Antilles. Imaginez que nous sommes en 1508 et le roi de Castille vous missionne de prendre part au développement de l'île de Puerto Rico, tout récemment découverte par Christophe Colomb. Une concession de terres agricoles et des terrains constructibles vous ont été confiés. À vous de démontrer que vous êtes le meilleur gestionnaire de Puerto Rico, car gloire et fortune sont à la clé. Puerto Rico, c'est un monument du jeu de société moderne. Le jeu est signé Andreas Seyfarth et il est sorti en 2002. Il est jouable de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ de 60 à 90 minutes. Le jeu pointe actuellement à la 5e place au classement BGG. Alors même si vous pratiquez le jeu de société moderne depuis peu, vous avez probablement entendu parler de Puerto Rico, au moins il a été cité comme référence. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer, il faudrait rajouter cette entrée dans votre tout doux pour 2016. La version française la plus récente est éditée par Philosophia, que vous trouverez à Philibert pour 36€. À l'occasion des 10 ans du jeu, une édition anniversaire est parue et Istari s'est chargé de la localisation en français dans sa gamme Istari+. La boîte est malheureusement difficilement trouvable et en occasion elle est souvent à des prix un peu exorbitants. Le but du jeu est donc de développer votre concession sur l'île en produisant des marchandises à partir de vos plantations et en construisant des bâtiments. Vous gagnerez des points de victoire grâce à la construction de bâtiments et à l'expédition de marchandises vers le vieux continent. On va retrouver 5 types de plantations que l'on va pouvoir planter dans nos champs. Le maïs, les plants d'indigo, les cannes à sucre, les plants de café et les plants de tabac. Le maïs est la seule marchandise brute exploitable alors que les autres marchandises sont issues des matières premières qui devront être transformées dans leurs bâtiments de production respectifs. Par exemple, pour produire du sucre, il faudra une plantation de canne à sucre et une raffinerie de sucre pour produire la marchandise. Alors que le maïs pourra directement être mis en caisse pour être expédié. On aurait pu imaginer devoir le transformer en pop-corn, mais je pense qu'on aurait frisé l'anachronisme. La construction des bâtiments se paye en pièces d'or, et on peut gagner ces pièces d'or grâce à la vente des marchandises sur le marché. Il faudra également gérer des ouvriers qui seront à placer dans les plantations et les bâtiments pour assurer leur fonctionnement. Alors ce sont des ouvriers un petit peu spéciaux, j'en reparle un petit peu plus tard dans la chronique. La mécanique principale s'oriente autour de la sélection de personnages ou de rôles qui permettent de déclencher un effet. La particularité est que tous les joueurs pourront effectuer l'action du personnage choisi, et le joueur qui a sélectionné le rôle bénéficie d'un petit privilège par rapport à cette action. Par exemple, si un joueur choisit le personnage pour construire des bâtiments, le maçon, eh bien chaque joueur pourra construire un bâtiment et le joueur qui a choisi le maçon bénéficiera d'une réduction sur le coût du bâtiment. En plus du maçon, on a les personnages suivants à sa disposition. On va retrouver le planteur, qui donne accès à de nouvelles plantations. L'artisan permet de produire des marchandises. L'intendant qui va permettre de faire venir de nouveaux ouvriers, qui sont nommés des colons. Le capitaine qui va permettre d'expédier des marchandises. Le marchand pour vendre ses marchandises au marché. Et le chercheur d'or qui permet de récupérer une pièce d'or. Mais son action n'est pas partagée par les autres joueurs. Dans le jeu, il est très important d'avoir un bon tempo dans l'enchaînement des rôles et des actions qu'on va réaliser. Et il faut également essayer de deviner quels rôles vont être sélectionnés par les autres joueurs. Il faudra judicieusement sélectionner son rôle et ensuite bénéficier de manière indirecte de l'action des rôles choisis par les autres joueurs. Et on est également souvent tiraillé entre sélectionner un rôle pour bénéficier de son privilège ou alors justement choisir un rôle pour que ça ne soit pas un autre joueur qui bénéficie de son privilège. Alors les choix sont souvent assez délicats. Dans le jeu, on se retrouve également confronté à la dualité entre le gain pécunier d'un côté et le gain de points de victoire de l'autre. Alors les marchandises que l'on va produire, on peut soit les vendre au marché contre de l'argent, soit on va pouvoir les expédier contre des points de victoire. Alors avec la particularité, c'est que quelle que soit la marchandise que l'on expédie, ça rapporte un point de victoire. Par contre, la vente de marchandises se fait à des prix différents. Par exemple, le maïs, qui est une marchandise facile à produire, se vend à 0 pièces d'or. Alors que le café se vend à 4 pièces d'or pour une caisse, mais c'est une marchandise plus difficile à produire. Alors n'espérez pas faire fortune en ne plantant que des champs de maïs, mais ça peut être un bon moyen d'expédier en grande quantité. Alors, il faudra beaucoup observer les autres joueurs pour savoir vers quelle stratégie ils s'orientent. Est-ce qu'ils vont plutôt s'orienter vers du monopole de marchandises ou alors au contraire vers de la diversité? Est-ce qu'ils vont préférer les marchandises faciles à produire ou au contraire les marchandises les plus difficiles à produire mais qui rapportent le plus d'argent en cas de vente? Alors dans le jeu, on va retrouver pas mal d'interactions, mais c'est une interaction de manière indirecte. On va pas aller piquer les marchandises des autres joueurs, ni même leur détruire leur bâtiment, hein. Mais on va retrouver de l'interaction déjà au niveau de la vente de marchandises. Le marché ne peut accueillir que 4 caisses de marchandises et doivent être de types différents. Et tant que le marché n'a pas été complété, les caisses en place restent. On peut ainsi bloquer la vente des autres joueurs si on est le premier à placer sa marchandise. On retrouve la même interaction indirecte pour l'expédition des marchandises. 3 bateaux sont à quai et attendent d'être chargés avec les marchandises qui sont produites. Ces 3 bateaux ont chacun des capacités différentes et un bateau ne peut accueillir qu'un seul type de marchandise qui dépend de la première caisse qui est chargée. Et 2 bateaux ne peuvent pas contenir la même marchandise. Alors on peut arriver à une situation de monopole. Si on est le seul à produire par exemple du café, on aura un bateau rien qu'à nous, si on est le premier à placer une caisse de café dessus. Mais si on ne produit que du café et que les 3 bateaux sont déjà chargés avec d'autres marchandises, on pourra rien faire de nos caisses de café. L'idéal, c'est d'arriver à des situations de blocage où les autres joueurs sont incapables de charger leurs marchandises, soit par manque de place sur les bateaux, soit par type de marchandises incompatibles. En plus, à la fin de la phase de l'expédition des marchandises, toutes les marchandises qui n'ont pas pu être expédiées sont périmées et le joueur doit s'en débarrasser. Il ne peut en conserver qu'une seule caisse, sauf s'il a construit les bâtiments de stockage. D'autres bâtiments permettent de s'affranchir des contraintes de vente et de chargement dans les bateaux. Bon, je ne vais pas rentrer en détail dans la description de tous les bâtiments, je vous laisserai les découvrir lors de votre première partie. Alors je vais revenir sur les ouvriers qui sont nommés les colons dans le jeu. Alors bien évidemment, ce ne sont pas des travailleurs arrivant tout sourire comme sur les illustrations, mais bien des esclaves qui pour la plupart sont les anciens amérindiens Taínos qui sont natifs de l'île. Cette part de l'histoire a été occultée pour avoir un thème politiquement correct. D'ailleurs, je vous renvoie vers l'excellent épisode numéro 31 du podcast Playtime consacré aux politiques dans le jeu de société. Alors pour la petite note étymologique, l'île de Puerto Rico avait d'abord été baptisée San Juan Bautista par Christophe Colomb en l'honneur de Saint Jean le Baptiste, Jean étant aussi le prénom du fils du roi de Castille. San Juan est d'ailleurs un autre jeu dans l'affiliation de Puerto Rico, mais est basé sur des cartes, et il utilise également la sélection de rôles et d'actions partagées. On retrouve également la même mécanique dans le jeu Race for the Galaxy. Pour conclure, on a affaire à un excellent jeu de gestion qui a fait toutes ses preuves, alors n'hésitez pas à l'essayer si vous en avez l'occasion. Et d'ici là, jouez bien!
Ok, mais merci pour cette chronique, Père Castor. C'était bien sympa.
Mais je t'en prie.
Maintenant, on va passer au coin de la table. Alors, au coin de la table, ils ont un sujet polémique ce mois-ci. C'est les jeux de rôle sans dés. Ah, restez là. Je vois déjà tous les rôlistes qui s'arrachent les cheveux, qui sautent par la fenêtre.
Quoi, il n'y a pas de D20?
Non, il n'y a pas de D20, pas de D100, pas de D4. C'est un peu la folie. Mais il y a plein d'autres mécanismes avec des cartes ou autre chose. Toi, tu fais un peu de jeu de rôle ou pas du tout?
Alors récemment, pas vraiment. Quand j'étais un petit peu plus jeune au collège, j'avais joué à Advanced Dungeons & Dragons version 2, qui venait de sortir. Ça date, c'était en 97-98. Et bah justement, c'était un plaisir à l'époque de jeter des gobelets de dés entiers quand t'envoyais un sort.
Bah là, je joue un peu à Metal Adventure et potentiellement, tu peux jeter 50 dés en un coup. 50 dés 6 en un jet. Sur le...
ça fait un investissement en dés aussi.
Ça fait un investissement. Bon, en fait, il y a un système de réserve de dés qui appartiennent aux joueurs, qui peuvent utiliser pour se booster. Mais une fois qu'ils les ont utilisés, ils vont dans une réserve du MJ. Et après, le MJ, il peut booster ses PNJ. Donc, c'est donnant-donnant, quoi.
Et du coup, tu utilises une table de classe pour jeter les dés? Parce qu'il faut une sacrée surface.
Il faut une sacrée surface. Oui, mais c'est en théorie. Parce que du coup, si en tant que joueur, tu lances 50 dés, après, tu sais que le MJ, il a 50 dés à lancer contre tout le monde. Et là, il faut bien réfléchir, quoi. Parce que sinon, sinon tu peux prendre des retours de flamme qui sont pas forcément.
Surtout si tu fais 51.
Ouais, voilà, ouais. En plus. Ok, ben on va les écouter.
Tu veux savoir comment ça marche? Viens autour de la table avec Pascal, Guillaume et Aurélien.
Bienvenue au coin de la table, la chronique proxy jeu qui démonte le jeu de rôle.
Popo.
Voilà, on se pose. Donc, je suis toujours Pascal et avec moi, il y a toujours Guylaine.
Bonjour.
Et toujours Aurélien.
Bonjour, bonjour.
Donc, le sujet du jour.
Aujourd'hui, sur la table, il y a des crayons, il y a du papier.
Mais il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés.
Oh, aujourd'hui, on a dit pas de dés.
Pas de dés. Pas de dés ou des dés, mais on n'a pas le droit de les faire rouler.
Exactement.
Du moins, on n'a pas le droit de les faire rouler pour...
Résoudre des actions.
Exactement. Et bien voilà, on va commencer à pas trop dur, à pas trop vous dépayser. On sait que les rôlistes sont un peu sensibles du cœur et tout ça. Donc on va parler du Gumshoe System, qui a été développé par Robin Dillows, auteur de Feng Shui par exemple, qui a été réutilisé dans le jeu Knights Black Agent, qui n'est pas fait par Robin Dillows, mais dont j'ai perdu le nom d'auteur exactement. Alors, le Gumshoe System, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Gumshoe, ça veut dire détective, donc c'est un système d'enquête. Et le présupposé du jeu, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas de chercher les indices, mais c'est de savoir ce qu'on va en faire. Mmh. Et donc, trouver les indices, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'on ne lance pas de dés. Mais à la place, on dépense des points dans les jauges de compétences correspondantes. Par exemple, on rentre dans une pièce, il y a un cadavre, un joueur va dire bah, « Écoutez, moi j'ai une compétence de médecine légale, il s'approche du cadavre, il commence à examiner, il va voir que voilà, blablabla, il a été assassiné à coup de couteau. Le deuxième dit bah moi j'ai une compétence en
relevé d'empreintes digitales par exemple,
d'empreintes digitales, ouais. Voilà, ou plutôt chimie comme oui. Ça, donc il va faire les trucs, il va faire le relevé d'empreintes digitales, etc.
Et tout ça seulement en dépensant les points qu'il possède déjà et pas du tout en faisant appel à un système aléatoire.
Non, voilà. Alors après. Je sens que vous allez me dire oui, mais si on n'a plus de points, qu'est-ce qu'on fait?
Si on n'a plus de points, qu'est-ce qu'on fait?
Ça exactement.
Alors et bien, ce qu'on fait quand on n'a plus de points, et bien, c'est pas grave parce que le MJ est fortement conseillé de simplement mettre des indices inratables. Mmh.
Ceux qui sont nécessaires à l'enquête.
Ceux qui sont vraiment nécessaires à faire avancer l'enquête. Si on voit que les joueurs pataugent, par exemple, on le file simplement au joueur qui a le plus haut score dans la compétence correspondante.
Donc, excite le « j'ouvre l'armoire, lance-moi un dé, échec critique, tu ne vois pas qu'il y a un manteau accroché. » Bon, d'accord.
Bah. Il y avait un squelette dans le placard.
Oui, mais tu ne l'as pas vu. Très bien, excellent.
Exactement.
Et c'est une bonne chose.
C'est une excellente chose. Plus jamais être bloqué dans une enquête, plus jamais de moments où tout le monde se regarde dans les yeux en mode « qu'est-ce qu'on fait ?»
Je me repose pour pouvoir relancer mon dé.
Exactement, voilà. Et c'est vraiment sympa.
Un côté aussi très collaboratif, puisqu'on va aussi se répartir les compétences les uns les autres et se dire, bon, bah, là,
pour faire avancer l'histoire, c'est sûr. Bon, après, il y a toujours des jets de dés, par exemple, pour les combats et trucs comme ça. Mais c'est pas le cœur du jeu. Quoi.
Et on n'en parle pas aujourd'hui.
On n'en parle pas aujourd'hui, exactement. Rien à foutre.
Très bien.
Moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui ne fait pas appel au lancer de dés, qui s'appelle Prosopopée. C'est un petit jeu de Frédéric Saint-Hès, un jeu sans MJ, et dans lequel on va donc raconter une histoire tous ensemble. C'est un jeu très onirique, très poétique, qui nous pousse à raconter un peu des contes, des fables, des choses assez merveilleuses, comme ça, dans un esprit assez joli. Et pour résoudre une action, tout simplement, en fait, le principe de base du jeu, c'est que tout ce qui est dit, on ne peut pas revenir dessus.
Ah ouais.
Donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte. Donc si je dis j'ouvre la porte, je te fous une baffe dans la gueule, il y a rien qui peut m'empêcher de le faire, je l'ai dit, c'est fait, point barre, et on passe tout de suite à l'instant baffe dans la gueule plus 1.
Ça c'est le truc qui calme les petits rigolos de la table.
Exactement, mais du coup ça incite les gens à mesurer leurs propos, à faire attention quand ils prennent la parole, et aussi à ne pas prendre la parole trop souvent, à céder la place les uns les autres, à s'écouter. Et ça pose tout de suite une ambiance autour de la table. On va avoir assez peu de conversations méta et compagnie, puisque bah, forcément, tout ce qu'on se dit arrive.
Donc par exemple, tu veux du coca? Et là, soudain...
Une bouteille de coca, apparemment.
C'était la bouteille de coca depuis le début.
Alors moi, j'avais quand même une question. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un personnage qui va essayer d'effectuer une action qui ne correspond pas à ses compétences? Exemple, je suis un humain normalement constitué et je soulève ce rocher de 200 kilos.
Bon, déjà, c'est un jeu qui a une composante merveilleuse et où, de base, les joueurs, ce sont jamais uniquement des humains normaux à la base.
D'accord.
Donc, de toute façon, il y a cette composante un peu surnaturelle merveilleuse qui peut intervenir. Après, c'est quand même un jeu qui repose énormément sur la bonne foi des personnages vis-à-vis de ça et qui ne vont pas abuser de ce système, puisque, de toute façon, sinon, ça nuit à l'histoire, ça nuit à la tablée, ça nuit aux relations entre les joueurs et il sera plus invité la prochaine fois.
D'accord, donc c'est un jeu où finalement tu gagnes ton droit de pouvoir jouer au jeu par ta bonne coopération.
Oh, c'est un peu sévère, mais bon.
Non, je ne voudrais pas. Alors moi, je vais embrayer avec un système que j'appellerais le système du MJ qui tranche. Donc ce n'est pas un système de jeu de rôle en particulier, il n'y a aucun jeu de rôle qui s'appelle MJ qui tranche le jeu. Non, c'est plutôt un parti pris de résolution et qui est très, très carré, on va dire. Qui est, bon bah voilà, on a un maître jeu, le maître jeu peut décider à n'importe quel moment, de façon arbitraire, en tout cas qui est lié à sa propre discrétion, qu'une action va automatiquement réussir ou échouer. Donc ça peut avoir des utilisations très triviales, par exemple, je souhaite ouvrir cette porte, tu y arrives. Voilà, pas de lancer de dé, pas de résolution, je décide.
C'est un peu une extension du droit du MJ de base, mais à l'extrême. Quoi.
Voilà, et donc pour des exemples un peu moins triviaux, on peut parler par exemple des murder parties. Donc c'est Cluedo Grandin en nature, c'est jeu de rôle Grandin en nature en durée assez courte, où généralement tous les joueurs ont approximativement 47 secrets à cacher au reste de l'assemblée.
Plus ou moins.
Plus ou moins, pour une murder de 2 heures. Et le principe, c'est que quand il y a des conflits, par exemple, si c'est un combat entre différentes personnes lors d'une murder pour une raison quelconque, ça serait délicat de dire aux joueurs, bon ben voilà, la résolution va se faire en fonction de la discrétion des joueurs, puisque ben, des joueurs peuvent avoir des secrets. Donc peut-être l'intendant qui garde le placard, en fait, c'est un très puissant agent du FBI, que sais-je encore. Donc en cas de combat, il est vachement avantagé, mais ça le dérangerait beaucoup que les gens le sachent. Et oui, parce que garder des secrets. Et donc le MJ qui tranche peut permettre de favoriser les secrets qui sont gardés en disant, bon ben voilà, là, avec cette situation, c'est telle personne qui joue en premier, sans dire pourquoi, juste parce que ben, je suis le maître jeu. L'inconvénient, c'est bien sûr que dans ce genre de cas, il peut y avoir une frustration de la part des joueurs, de se dire, bon, ben, où est mon contrôle, où est-ce que je vais pouvoir effectivement agir sur l'histoire, mais les vertus peuvent le justifier parfois.
À utiliser avec modération.
C'est ça. Donc, tu avais un autre exemple d'ailleurs, Guylaine.
Oui, ça me fait penser en fait à un jeu de rôle à secret, puisqu'au final, c'est une mécanique qui se met au service des jeux à secret. Bon, une murder party, par définition, c'est à secret. Mais il y a également le jeu Hurlement, qui est un jeu à secret où les joueurs vont au fur et à mesure prendre conscience de qui ils sont vraiment. Ils l'ignorent au début. Et donc, bah, pas de dé, c'est le MJ qui tranche quand tu veux faire une action. Tu l'exposes, voilà, je veux faire ci, ça, ça. Des fois, il va nuancer, il va dire « Ah, tu pourrais, mais il faudrait ceci en plus. » Mais dans tous les cas, c'est le MJ qui te dit si tu peux faire les choses ou pas, ce qui vient se mettre au service du fait que c'est une histoire à secret dont tu n'es qu'un acteur, ce qui est clairement énoncé au début du jeu.
Mais ouais, c'est vrai, comme tu disais, voilà, il y a peut-être ce côté frustration qui vient en jeu. Les débuts de partie doivent être un peu difficiles. Est-ce que je peux faire ça? Oui, non, le temps d'évaluer.
Oui, au début, il y a un petit temps où on jauge un petit peu comment ça s'installe, comment les relations s'installent. Dans quelle mesure est-ce que tu peux proposer ce que tu peux faire, ouais. Tu peux faire des propositions pour ton personnage, mais chacun trouve ses marques assez rapidement dans le système.
C'est important.
Du moins, moi, c'était mon cas. Okay.
Du coup, de toute façon, ça rentre un peu dans le cadre de tout ce qui est narration coopérative. Mmh. D'accord. Qu'on retrouve par exemple dans Fiasco de Jason Morningstar, Billy Puppet Games, où voilà, là les dés on les roule au début, hein, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important, parce qu'après on s'en sert comme symbole en fait de résolution, noir raté, blanc réussi, mais surtout les décisions de comment ça se fait, ce sont des décisions collégiales. C'est soit c'est donc, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, Fiasco, c'est simple, on fait des tours de jeu, chaque tour est une scène, et chaque tour est dirigé par un joueur, entre guillemets.
En fait, la partie est présentée comme un film.
Comme un film, exactement. Et donc, chaque joueur a son personnage, chaque scène est centrée sur un personnage, et au début de la scène de son personnage, le joueur choisit s'il crée le cadre de la scène, c'est-à-dire qu'il établit, soit il résout, c'est-à-dire qu'il choisit comment ça se termine pour son personnage. S'il ne résout pas, ce sont les autres joueurs. Et donc les autres joueurs prennent ensemble la décision, mais c'est une coopération entre le joueur principal et les autres joueurs. Et ce qui est très très intéressant aussi, c'est le fait que dans Fiasco, c'est explicitement dit que si tu veux qu'il tombe plein de merde sur la gueule de ton personnage, eh ben, tu peux faire deux pouces en l'air à tes copains et en disant ouais, allez-y, pourrissez-moi là, tout, et ça fait avancer l'histoire et tout le monde est content. Ça, c'est cool.
Donc, collaboratif et un côté très cadavreski du jeu de rôle.
Ouais, cadavreski, etc.
Et aussi un peu masochiste.
C'est ça qui est bon.
Le sens du sacrifice.
Ah. C'est ça. Mais du coup, c'est quand même assez sympa parce que une scène, on a chacun. Du coup, on a deux oppositions qui se créent, celle entre les autres joueurs et le joueur dont c'est la scène. Ouais. Qui va avoir un poids dans la scène, celui d'établir ou de résoudre, mais au bout d'un moment, la scène lui échappera.
Voilà.
Et ça, c'est quand même assez
intéressant. Voilà, ce qui est vraiment pas mal, c'est que du coup, si on a un joueur qui est vraiment très attaché à son personnage et qui ne veut pas qu'il arrive au bon truc, ben, pour résoudre, il va être obligé de filer la scène aux autres, avec les autres qui décident, et même si la scène se finit positivement pour lui, ça peut quand même.
Il peut quand même en prendre plein la gueule.
Il peut quand même en prendre plein la gueule. Et ça, c'est bien quand les joueurs en prennent plein la gueule.
Très bien.
Donc au final, c'est une mécanique assez subjective parce que, pareil, la résolution se base sur la question est-ce que ça finit bien ou mal pour votre personnage. Bon, tout ça, c'est relatif. Selon le point de vue, selon si c'est le joueur qui résout ou les autres joueurs qui résolvent, ça peut quand même être amené à changer. Et ça me fait penser à un jeu de société qui s'appelle Dixit, qui a aussi un système de résolution basé sur la subjectivité. Dixit, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons tous des cartes en main. Un tour de jeu, un joueur va poser une carte face cachée en disant une phrase. Sur ces cartes, il y a des dessins qui sont assez libres au niveau de l'interprétation et la phrase donnée est censée correspondre au dessin, mais pas trop non plus, car si elle correspond vraiment trait pour trait au dessin, c'est un mouton dans un pré, vous allez perdre. Il faut que ce soit quelque chose qui soit assez libre d'interprétation. Une fois que vous avez dit cette phrase, les autres joueurs autour de la table mettent également une carte face cachée. On retourne toutes les cartes et on vote pour la carte qui semble le mieux correspondre à la phrase qui était donnée.
En fait, comme on disait, la phrase qu'on donne est une clé d'interprétation de la carte.
Et si tout le monde, si tous les votants votent pour la carte qui était celle du compteur, le compteur ne gagne pas de points. Donc il doit faire quelque chose d'assez ouvert pour que les autres joueurs puissent donner une carte interprétée par d'autres joueurs. Et oui.
Si c'est trop explicite, il ne gagnera rien. Si ça ne l'est pas assez, il ne gagnera rien non plus.
Tout simplement, en fait, qu'il y ait le plus de joueurs qui trouvent la bonne, mais pas tous.
Voilà, donc ensemble de joueurs moins 1, là c'est la totale.
Il faut être explicite mais pas trop, ou implicite
mais pas trop.
C'est subtil.
Mais du coup, c'est un système de résolution qui se base d'une part sur le vote et deuxième part sur l'interprétation, qui sont quand même des composantes plutôt rares en jeu. Et je trouve ça assez intéressant de voir à quel point la subjectivité, que ce soit dans le vote ou dans l'interprétation, est au cœur du système de résolution de ce jeu de société.
Avec ce que ça implique comme avantage, mais aussi comme inconvénient, puisque des joueurs qui se connaissent très bien autour de la table peuvent avoir un système de résolution qui sera différent de si les joueurs ne se connaissent pas. Par exemple, avec l'utilisation de private jokes, donc d'éléments qui sont connus au sein du groupe des joueurs. Donc du coup, ça peut aussi créer une complicité supplémentaire. Mais pour des joueurs qui, par exemple, ne connaîtraient pas une partie des autres joueurs, il peut y avoir un jeu à deux vitesses qui pourrait...
J'en connais qui sont très très forts là-dessus.
Et oui,
oui. Et si on a une table, si on a une table de 5 joueurs avec 4 joueurs qui se connaissent et un qui n'en connaît qu'un dans l'autre,
c'est triste.
Ça peut être très triste.
On ne sait plus qu'il n'ait pas les mêmes références culturelles et là c'est fou.
Et oui, oui, c'est vrai, puisque effectivement, dans un groupe de personnes qui vont connaître, par exemple, Terry Pratchett, puisque Terry Pratchett est souvent interprétable dans un certain nombre de cartes.
Parce que nous, souvent, c'est Miyazaki et.
Oui.
Et l'esprit de Ricardienne.
Oui, voilà, ça marche très bien aussi. Si les références ne sont pas acquises par les autres joueurs, ça peut poser problème. C'est un jeu assez intéressant là-dessus. Et moi, je vais terminer avec une petite confidence qui est que je suis en manque de dés.
Oh non.
Si, je suis en manque de dés.
Ça, c'est les gens qui font du jeu de plateau.
Alors, tu lui as pas donné sa dose ce matin?
J'avais des pions, mais je les ai perdus. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui utilise un peu des dés, mais c'est pas vraiment le gros du propos, qui s'appelle Star Drakkar, créé par Eric Nyodan. Et Star Drakkar, c'est un jeu, comme son nom l'indique, où on joue des vikings dans l'espace, qui dirigent des drakkar dans l'espace, qui ont des haches laser. Bref, un jeu basé sur la philosophie et la résolution d'énigmes.
Et très subtil.
Et très subtil.
Tu prends des vikings, c'est bien. Tu prends l'espace, c'est bien. Ça peut être qu'un jeu bien.
C'est ça. Donc un parti pris qui est résolument humoristique et très, voilà, très fun. Pas prise de tête là-dessus. Et il se trouve que les personnages ont deux compétences, seulement deux, qui sont la brutalité et l'obstination. Donc équivalent à compétences physiques et compétences intellectuelles. Loïd.
Encore une fois, des compétences pleines de subtilité.
Tout à fait. Donc, et l'idée, c'est que chaque personnage a donc son brutalité, son obstination, mais chaque personnage dispose également d'une jauge physique sur l'avant-bras qui s'appelle le bourrinomètre. Et comme son nom l'indique, permet de changer, de switcher en fait, entre la brutalité et l'obstination, donc de rajouter des points d'une jauge vers l'autre. Donc un viking qui est très brutal mais pas très obstiné peut soudain devenir beaucoup plus obstiné que brutal et donc résoudre avec plus d'efficacité des épreuves intellectuelles telles qu'une opération, une somme à deux chiffres.
En commençant jusqu'à ce que ça marche.
En commençant jusqu'à ce que ça marche puisque c'est de l'obstination. Donc c'est très intéressant parce que ça peut libérer le maître jeu de contraintes du type « Oh mais mon groupe de joueurs il est très brutal mais pas très obstiné ». Bah, non, puisque pour le coup on peut changer ses compétences. Alors changer les compétences requiert quand même une action hein, pour que ça soit pas gratuit.
Oui, donc dans des scènes très rapides peut quand même amener à certains dilemmes qui sont intéressants aussi.
Et oui, tout à fait. Ça contribue au parti pris, ça contribue à l'expérience du jeu et ça peut aussi libérer des personnes, des joueurs, puisque finalement on excite la prise de tête de oh, est-ce que je vais faire un personnage qui est plutôt fort ou plutôt intelligent. Bon. Au final, dans le feu de l'action, on peut changer les choses.
Ouais. Même pour le MJ, est-ce que je fais plutôt un scénario enquête? Est-ce que je fais plutôt un scénario action? Comment est-ce que mes joueurs sont orientés? Est-ce que mes joueurs, est-ce que les personnages de mes joueurs vont aimer un scénario d'enquête? Enfin, vont être bons pour un scénario d'enquête? Peu importe.
Ce qui est intéressant c'est ça. Là-dessus, c'est que aussi, je repense encore une fois à Bingo, qui a aussi un système à double compétence.
Je croyais qu'on arriverait à ne pas en parler.
On n'a pas cité Mysterium, c'est
voilà. C'est que la différence. En fait, il y a un rapport qui peut être fait entre Bingo et Star Drakkar, c'est que dans Bingo, en fait, les compétences ne sont pas interchangeables. Enfin, les statistiques ne sont pas interchangeables, mais par contre, elles sont interprétables.
Ah oui,
Sexy et Macho, tu les interprètes comme tu veux.
Oui.
Certains vont dire je réfléchis de façon très macho à ce problème mathématique. Je m'allume un gros cigare, là. Hop, voilà.
J'ouvre une
porte. Et d'autres vont dire, oui, mais science is sexy, tu vois. Alors, c'est sexy de résoudre des équations au quatrième degré. Donc, voilà.
Et oui. Et donc, voilà, pour cette petite incartade au niveau du dé, puisqu'on résout quand même les actions avec des jets de dés. Mais c'est peut-être une transition pour ce qu'on va vous dire la prochaine fois, je ne sais pas.
Car rassurez-vous, la prochaine fois, les dés reviennent en partie seulement. Nous parlerons des systèmes de résolution non classiques, donc pas juste en lançant des dés et en regardant le résultat, aléatoires et semi-aléatoires. Car, vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui nous n'avons cité que des jeux dont les mécaniques ne sont pas liées à l'aléatoire.
Exactement.
Et oui, et pourtant Tours est une très belle ville.
Sur ce, nous
c'était
vous...
C'était
On va lui redonner des dés, promis.
J'en manque.
Okay.
Et on se retrouvera la prochaine fois.
Eh oui, bah, écoutez, en attendant, jouez bien.
À bientôt.
À bientôt.
Ok, merci. Merci toute l'équipe de Coin de la Table. Et pour notre chronique suivante, on a notre chroniqueur oriental, on peut dire ça, oriental,
voilà.
On dit ça. C'est Iso Bretnik qui fait son grand retour et il avait beaucoup de choses à faire. Mais là, il revient pour nous parler du Game Market. Mais attention, pas le Game Market de Tokyo. Le Game Market de Kobe. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous, bonjour à la Proxy Team et bonjour à tous les auditeurs. C'est Iso, Iso Britannique, et ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de chronique pour le podcast Proxy Jeux et je m'en excuse sincèrement. J'ai pas de véritable explication. Bon, je suis pas mal occupé, mais disons que j'aurais très bien pu trouver 10 minutes pour le faire. Je l'ai pas fait. Donc voilà, je suis déjà à la bourre encore une fois. Donc je vais essayer de me concentrer et de vous faire un épisode sur le Game Market qui a eu lieu à Kobe en mars, début mars exactement, et qui était ma foi un Game Market très réussi. Ces dernières années, bon, la plupart de mes articles s'intéressent surtout au Game Market de Tokyo, qui a lieu principalement en novembre et en avril, fin avril, début mai. Cette année, ce sera le 5 mai, en pleine Golden Week, donc qui est une semaine de vacances au Japon. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous parler des autres Game Market qui sont un peu moins connus et qui sont un peu désertés par les éditeurs étrangers. Et bon, c'est une ambiance très très différente et qui me plaît beaucoup. Alors, le Game Market jusqu'à maintenant à l'extérieur de Tokyo avait plutôt lieu à Osaka, dans des endroits qui étaient pas terribles, parfois répartis sur plusieurs étages. Il y a 2 ans, c'était sur 3 étages différents. Puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver un espace qui convenait parfaitement au nombre de participants au Game Market. Cette fois-ci, ils ont décidé de se déplacer sur Kobe, qui proposait un lieu qui était vraiment fait pour le Game Market, pour l'installation de plusieurs dizaines, voire centaines de petits stands avec des auteurs et des jeux sympathiques à découvrir. Alors cette fois-ci, puisque je vous parle d'un petit Game Market, les différences qu'il y a avec les Game Market de Tokyo, c'est évidemment la fréquentation, puisqu'on passe de entre 12 000 et 13 000 participants sur une journée au Game Market de Tokyo en général, et ça va en augmentant chaque année, à 3 000-3 500 participants. Donc c'est beaucoup plus agréable de circuler dans les allées, d'autant plus que la surface du Game Market de Kobe était quand même assez impressionnante pour le nombre de visiteurs. Et autre différence, donc comme je vous l'ai dit, il y a très très peu de représentations étrangères dans ce Game Market. Et je vais pas dire que c'est dommage, mais parce que les nouveautés sont moins présentes que dans les Game Market de Tokyo. Mais malgré tout, ce serait l'occasion pour les éditeurs étrangers de prendre un contact plus serein, plus approfondi avec des auteurs japonais. Il y avait quand même pas mal de petits jeux très sympathiques à découvrir, et d'ailleurs je vais vous en présenter quelques-uns. Alors donc le Game Market a comme d'habitude lieu sur une journée. C'est la foule au début, les gens se ruent sur les stands qui ont du succès. Et parmi les jeux qui avaient du succès, qui étaient des réimpressions de jeux qui étaient déjà sortis au précédent Game Market, il y avait notamment National Economy, qui est un jeu que je trouve exceptionnel, que j'aimerais voir publié par un éditeur à l'étranger, mais qui malheureusement a une ambiance qui est un peu est un mot très léger, qui est très très froide, qui est à fond sur le monde du travail et sur la gestion de l'entreprise et des dettes qu'une entreprise peut rapidement malheureusement acquérir, et sur comment gérer son entreprise, de quelle façon vendre des bâtiments qu'on vient de construire pour récupérer des liquidités qui vont permettre de payer les salaires, etc. C'est un jeu qui est très très profond, je trouve, malgré un matériel qui est composé uniquement de cartes. Alors au niveau du graphisme, c'est très froid, comme je vous l'ai dit, mais les mécaniques et la courbe d'apprentissage sont vraiment, je trouve, exceptionnelles. Donc c'est un jeu que je conseillerais, qui est absolument injouable pour qui ne parle pas japonais, puisqu'il y a du texte sur toutes les cartes. Les règles ne sont pas très compliquées, mais il y a quand même une bonne... Il y a un texte introducteur qui est intéressant de la part de l'auteur, qui explique pourquoi il a fait ce jeu, et il a poussé le trip vraiment à fond avec uniquement... sur toutes les cartes, des citations qu'il a imaginées ou qu'il a empruntées sur l'économie et sur la gestion d'entreprise en japonais. Et les effets de cartes sont tout en japonais, évidemment. Donc c'est un jeu qui est assez difficile à aborder si on n'est pas capable de lire le japonais ou si on n'a pas un esclave pour faire la traduction. Et je vous avouerai que je n'ai pas particulièrement envie de faire la traduction. Donc ne me la demandez pas, je ne la ferai pas. Voilà. Parmi les autres jeux qui n'étaient pas des réimpressions, mais qui étaient des nouveautés que les étrangers, que les Français notamment connaissent déjà, il y avait Iki, le jeu de Kohta Yamada, qui est en train de prendre une très bonne réputation auprès des joueurs français suite à un épisode sur la Trick Track TV, je pense, et puis à une campagne Kickstarter, sachant que Kohta Yamada est vraiment un auteur intéressant que je suis depuis pas mal d'années. Il a fait des jeux qui se valent pas tous, mais parmi les jeux que j'ai pu découvrir de lui, il y a par exemple Kobito no Kutsuya, donc qui est l'atelier... comment on appelle ça, le... Ah là là, j'ai oublié le mot, mais enfin, j'oublie des mots français, je me vandamise, c'est terrifiant. Enfin bref, un atelier de confection de chaussures qui est envahi par des lutins qui sortent la nuit. Et c'est un jeu qui a un thème qui paraît très enfantin, très tout public, mais qui est en fait un jeu très retors, et que j'aime beaucoup, et dont j'avais parlé, mais j'ai jamais vraiment écrit d'article dessus. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà. Il y a aussi Postman Race, qui est un jeu que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais qui m'attirait un peu. Et enfin, un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Futalimachi, qui est un jeu uniquement à deux joueurs, et qui est un petit jeu de cartes, des petites cartes carrées, très malin là aussi, qui se joue très rapidement, les parties en 15-20 minutes. Et du coup, j'étais très content de voir que Kohta Yamada avait réussi à se lancer comme ça sur Kickstarter, et à créer un effet d'attente chez des joueurs occidentaux. Et c'est vraiment une belle aventure, je pense. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parmi les autres jeux, donc évidemment, j'ai acheté Iki, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui le cherchent. Tous les gens qui n'ont pas participé à la campagne Kickstarter, ben, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous. Mais si ça peut vous rassurer, sachez que d'ici quelques temps, le jeu sera disponible quelque part. Enfin, voilà, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Autre jeu, un jeu qui s'appelle 8-Bit Trick. 8-bit pour les graphismes 8-bit, évidemment, qui est un jeu de Tori Hasegawa, qui est jusqu'à aujourd'hui était connu comme en tant qu'illustrateur. C'est un des illustrateurs et des graphic designers les plus demandés au Japon parmi les créateurs de jeux amateurs. Et il a décidé de sortir son jeu. C'était une surprise, personne n'était au courant, tout le monde était un peu surpris de le voir sortir un jeu comme ça. Et c'est un jeu qu'on appelle trick-taking en anglais, c'est un jeu, je dirais, un jeu de pli, qui a un petit twist intéressant, c'est-à-dire que sur les cartes, les plis que vous allez gagner vont vous permettre de récupérer des cubes roses ou noirs, sachant que les cubes noirs sont des cubes négatifs, et les cubes roses sont des cubes positifs, qui en général vous donnent un point. Et les joueurs vont jouer trois manches avec toutes les cartes qui sont comprises dans le jeu, bon, ça dépend du nombre de joueurs, mais à 5 on joue avec toutes les cartes, et le but du jeu va être de dépasser les 8 points à la fin des 3 manches, et si possible, pour remporter la partie, d'être le joueur le plus proche des 8 points. Si vous êtes en dessous de 8 points, c'est-à-dire si vous n'avez pas réussi à obtenir au moins 8 points avec les plis que vous avez remportés pendant ces 3 manches, vous êtes immédiatement éliminé à la fin de la partie, vous ne pouvez pas gagner la partie, même si vous êtes à 7 ennemis. Par contre, si vous êtes à 9, 10, 11, le joueur qui est le plus proche des 8 sera le vainqueur. Alors c'est un petit jeu de cartes très sympathique, ça se joue en une vingtaine de minutes. à partir de 10 ans. Alors c'est le petit problème avec les jeux de plis, c'est que c'est souvent à partir de 3 joueurs, mais on y a joué à 4, on a beaucoup aimé, et c'est un jeu que je conseillerais, d'autant plus qu'il n'y a pas trop, il y a pas de texte sur les, sur le matériel. La règle par contre est un peu confuse et assez longue, donc c'est assez difficile. Autre jeu de plis, là encore, mais un peu plus mathématique, qui nous vient d'un éditeur qui a fait notamment un jeu qui a eu un peu d'écho, qui s'appelle Age of Craft. Et il a créé deux autres jeux. Enfin, il présentait. C'est un groupe d'auteurs. Hein, c'est pas un auteur unique, comme souvent, c'est toujours un groupe d'auteurs. Vous avez pu le voir d'ailleurs avec Imagine. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs joueurs pour ceux. Pour ceux qui sont allés à Cannes, vous avez vu qu'il y avait plusieurs créateurs qui ont participé au jeu. Et pour tout vous dire, ils sont 5 en théorie. Donc voilà, c'est souvent des groupes d'auteurs au Japon plus que des auteurs seuls, à part peut-être des gens comme Masato Uesugi que vous avez pu découvrir avec Welcome to the Dungeon. Donc je vous parlais des gens qui ont fait Age of Craft, donc qui s'appelle Chicken Dice Games. Ils ont réalisé cette fois-ci un jeu qui s'appelle Age of Summoners, qui est un jeu de cartes et de pose de cartes, qui est là aussi très très stratégique. On pourrait lui reprocher lors de la première partie peut-être que la chance a une part importante dans le jeu. Mais en fait, pas du tout. C'est un jeu où vous allez jouer le rôle d'alchimiste. Pas vraiment d'alchimiste. Vous allez en fait jouer le rôle de sorciers qui vont devoir utiliser les cartes qu'ils ont en main. Toutes les cartes ont des effets qui vont vous permettre de scorer ou d'utiliser moins de cartes éléments pour invoquer les créatures que vous voulez invoquer. Et à votre tour, vous allez piocher des cartes, vous allez en poser devant vous qui vont vous servir de ressources pour invoquer les créatures que vous voulez jouer devant vous, là aussi. Et en même temps, vous allez aller pourrir les ressources de votre adversaire en posant une carte à la fin de votre tour. Alors, pourquoi pourrir les cartes éléments de votre adversaire ? Non pas parce qu'il n'a pas besoin de ces éléments, mais parce que chaque carte élément aura un numéro indiqué en haut à gauche de la carte qui, cumulé avec la carte que ce joueur va poser lui aussi dans sa suite de cartes éléments, vont lui permettre d'activer des actions. Et c'est là que tout le jeu se fait, c'est-à-dire que vous allez essayer d'empêcher votre adversaire ou vos adversaires d'enclencher des actions qui leur seraient très positives ou qui seraient très intéressantes pour eux au moment où ils vont jouer leur tour, avec les cartes créatures qu'ils ont déjà posées devant eux. Donc c'est un jeu qui est très malin, qui est sorti, la boîte de base est sortie déjà avec une extension. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Alors je déconseillerais 5 joueurs parce que déjà à 2 ça prend pas mal de temps. Il y a pas mal de analysis paralysis comme ils disent. Et le temps affiché est de 30 à 50 minutes. Lors de nos premières parties, on a joué à 2 joueurs et 3 joueurs, et il fallait compter une petite heure pour y jouer. Alors ils disent à partir de 10 ans, c'est absolument pas un thème à partir de 10 ans. Hein. On est plutôt, et puis même au niveau de la profondeur stratégique, je pense qu'on est plutôt dans les 12-13 ans. L'extension apporte de nouveaux effets, de nouvelles cartes, et on a juste fait une partie avec l'extension, elle est pas essentielle, mais elle est intéressante quand même pour ceux qui voudraient approfondir l'expérience de jeu et qui voudrait progresser encore dans la maîtrise de ce système de jeu qui je trouve est très intéressant. Et voilà, donc c'est un jeu qui là encore est très dépendant linguistiquement, puisque toutes les cartes ont un effet qui est indiqué sur plusieurs lignes, donc c'est un énorme travail de traduction à faire pour celui qui voudrait y jouer à la maison. Et enfin, dernier petit jeu dont je voulais vous parler, toujours du même groupe d'auteurs, c'est Alchemy Struggle, où vous allez incarner des alchimistes, qui est un jeu de plis mathématique avec des cartes qui représentent des potions de couleurs différentes. Alors c'est assez compliqué. Je pense que j'écrirai un article dessus, mais j'ai du mal à résumer les règles comme ça à brûle pour point. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste vous donner le nom du jeu. Et c'est un jeu qui là encore s'avère très intéressant pour les gens qui aiment les jeux de plis. Je suis assez amateur de jeux de plis. J'aime beaucoup des jeux comme Diamonds qui est sorti chez Stronghold Games et je comprends pas pourquoi il y a pas de version française d'ailleurs. J'aime beaucoup Niette, la réédition faite par Yellow. Enfin, et les Japonais ont tendance à faire beaucoup beaucoup de jeux de plis et ça tombe bien puisque j'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'était pour une petite chronique sur le Game Market de Kobe, qui l'air de rien aura duré quand même près de 15 minutes. Donc je m'excuse encore une fois de pas être très souvent là dans les récents podcasts. Je vous dis à bientôt. Je vous donne pas de date parce que je ne sais pas quand je ferai la prochaine chronique, mais sachez que je reviendrai. Voilà, à bientôt, ciao.
Merci Isobretnik pour le Game Market de Kobe, comme le bœuf de Kobe, je pense. Tu connais les bœufs de Kobe qui se font masser à la bière.
Ah oui, ils ont droit à un traitement de faveur.
Ouais, voilà, ils sont massés à la bière durant leur vie pour que ça donne une meilleure viande.
Mais est-ce qu'ils boivent de la bière ?
Ça, je ne sais pas, non, c'est juste pour le massage. Donc si tu vas à Kobe, tu peux lécher les
bœufs.
Lécher les bœufs pour avoir de la bière gratuite. Et donc pour finir, on va laisser la parole à celui qui est à proxy jeu ce que Juppé et ORPR, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous. C'est ODPJ, Olivier de proxy jeu, qui va nous parler d'un gros livre. On l'écoute tout de suite.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Olivier DPJ et ce soir je vais vous parler de Big Book of Madness, un jeu de Maxime Rambourg, illustré par Nayad, édité par Yellow en 2015. Un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs, pour 12 ans et plus, et comptez 60 à 90 minutes par partie. Le pitch de Big Book of Madness est simple. Nous sommes des étudiants dans la grande université de magie. On nous a raconté des histoires étranges et merveilleuses à propos de son sous-sol rempli de trésors, de grimoires anciens, de livres tous aussi puissants les uns que les autres. Avec une exception, le grand livre de la folie. Jamais de toute notre scolarité, nous devrions ouvrir ce livre sous peine de faire la plus grosse erreur de notre scolarité. Et nous sommes des adolescents. Alors, un soir d'été, nous nous infiltrons dans les sous-sols de l'université. Très confiants dans notre magie et assez perplexes par rapport aux conseils donnés par les adultes, nous nous sommes approchés de ce grand livre de la folie, et nous l'avons ouvert. Eh oui, nous l'avons ouvert. Quelle ne fut pas notre perplexité de voir apparaître démons et monstres. Eh oui, les parents, les adultes, parfois, ont raison. Ceci est le pitch de Big Book of Madness. Alors, comment est-ce qu'on joue ? C'est très simple. Big Book of Madness est un jeu coopératif. On va donc jouer tous ensemble. Le but du jeu est de parcourir les 6 pages du grand livre de la folie. Pour ce faire, il va falloir affronter des malédictions. Les malédictions sont des cartes avec des dos de couleur. Vert, bleu, blanc ou rouge. Chaque couleur correspond à un élément. Chaque personnage que nous allons incarner correspond également à un élément. Au début de la partie, nous allons récupérer des cartes numérotées de 1 à 2. Il en existe des numérotées jusqu'à 3, mais nous pourrons en acquérir un peu plus tard. Nous allons donc constituer un paquet. Nous allons piocher des cartes avec lesquelles nous allons pouvoir détruire des malédictions. Par exemple, sur le dos des malédictions de base, il va y avoir 4 icônes de la même couleur. Et nous allons devoir défausser 4 éléments de la même couleur pour détruire cette malédiction. Si nous arrivons sur la case de la malédiction après l'avoir détruite, alors rien ne se passe. Si nous arrivons sur la case de la malédiction alors qu'elle est toujours active, nous avons un malus. Le principe est très simple. À mon tour, si je défausse 4 éléments identiques ou 4 éléments différents, je peux casser une malédiction. Pas si facile lorsqu'on a uniquement 6 cartes en main. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un peu plus de chance de notre côté? Eh bien, on est censé être des étudiants en magie, donc on a appris quelques sorts. La combustion, la télépathie, la glace, la croissance. Ça vend du rêve, hein. Alors, si je défausse un élément feu, je peux détruire une carte de ma main. Si je défausse un élément air, je peux faire jouer un autre joueur, lui donner une action. Ça, c'est vachement bien. Si je défausse un élément eau, je peux placer une carte en soutien. Et si je défausse un élément terre, je peux piocher une carte. Défausser des cartes de sa main, c'est très bien parce que vous êtes face à un deck building. Il faut que vous construisiez votre main, que vous choisissiez les éléments que vous allez utiliser au cours de la partie et que vous défaussiez des cartes folie que vous allez récupérer lorsque vous allez remélanger votre défausse avec votre pioche. Ça, c'est très important. Mettre des cartes en soutien, ça veut dire vider sa main et les placer autour de placer des cartes autour de son plateau et les proposer aux autres joueurs pour qu'ils puissent les utiliser lorsqu'ils voudront faire une action. Faire jouer un autre joueur, c'est très important parce que en fonction de là où sont placées les malédictions et de qui joue, il va falloir supprimer les malédictions avant d'arriver sur la case. Donc ça, c'est très important également. Et piocher, ça permet de faire tourner son jeu. Il existe donc pour tout le monde, 4 sorts de base, 4 sorts qui sont upgradables et qui peuvent permettre d'avoir des effets toujours dans la même catégorie. Par exemple, quand on a combustion qui permet de détruire des cartes, on va détruire plus de cartes, des cartes aux autres joueurs. Ça restera le même effet, mais en plus important. En plus de ça, chaque personnage, il y en a 2 dans chaque couleur, un féminin, un masculin, chaque personnage a un effet particulier. Par exemple, durant votre tour, vous pouvez redresser un sortilège épuisé, donc engagé, devant vous ou un autre joueur, ce qui permet de recommencer, de faire combustion ou de faire télépathie. Alors, comment est-ce qu'on gagne à Big Book of Madness? Eh bien, quand on referme le livre. Et refermer le livre, ça veut dire aller jusqu'à la 6e page, détruire toutes les malédictions, et vaincre le boss de fin. Comment est-ce qu'on perd? Alors ça, c'est plus facile, hein, on ne va pas se le cacher. En perdant face au boss de fin, ça je l'ai dit, donc s'il reste encore des malédictions sur le plateau quand vous êtes sur la dernière page, bah, vous avez perdu, et ça, c'est ballot. Épuisement de la pioche folie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va renouveler sa main, rebattre ses cartes de défausse dans sa pioche, on va ajouter à son paquet une carte folie. Donc si le jeu dure trop longtemps, si on a un peu trop misé sur les cartes, et si on a un peu trop, voilà, bah, ça ne marche pas. Et lorsqu'un joueur a 6 cartes folie en main, il élimine la partie. Ça ne veut pas dire qu'on perd la partie, mais que le joueur ne joue plus du tout. Lorsque tous les joueurs sont éliminés, ben voilà, la partie est finie, hein, c'est fini, c'est remballé. Donc, qu'est-ce que je pense de Big Book of Madness? D'abord, j'aime pas les ados. J'aime pas le parti pris très ado, très kawaii. Par contre, j'adore, mais vraiment, j'adore les monstres de Naiad. Là, pour le coup, si vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Il a une, c'est incroyable. On essaiera de mettre une illustration pour le biais. C'est juste incroyable. C'est du ghostery. Mais du ghostery moins dur. Et c'est du ghostery où on va plus parler avec les autres et où l'interaction est incroyable. Et c'est-à-dire qu'on va demander aux autres de mettre du soutien, on va leur proposer de faire des actions, on va upgrader des sorts pour permettre aux autres de pouvoir être plus efficaces. C'est vraiment un excellent jeu coopératif. Et ne perdez pas de vue que c'est également un deck building où non seulement il va falloir
taper les malédictions, mais il va falloir aussi être de plus en plus efficace et donc bien choisir les cartes qu'on va mettre dans son paquet pour pouvoir supprimer les malédictions et aussi et surtout faire marcher ses sorts. Les sorts, il y en a trois niveaux et ils demandent de plus en plus de mana ou d'éléments d'un type ou d'un autre. Et pour que ça fonctionne et pour être de plus en plus efficace, il va falloir se spécialiser certainement dans tel ou tel élément. Donc voilà, c'est un excellent jeu. 32€ chez Philibert, il y a une tonne de matériel, une rejouabilité qui est exceptionnelle. C'est, à mon sens, moins hardcore gamer que Ghost Stories. C'est tout aussi intéressant. C'est plein d'interactions. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment Big Book of Madness. Le seul point négatif que je vois à ce jeu, c'est les adolescents. Voilà. Réutilisation des personnages adolescents par Yellow, mais à part ça, allez-y. Et puis, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous conseille de lire du Pratchett. Je vous conseille de lire tout l'arc qui se passe dans l'Université de l'Invisible. Et puis, quand vous aurez ça en tête, le jeu sera d'autant plus intéressant. Je vous donne rendez-vous en juin pour le numéro que je vais enregistrer avec Ambiance et Jeux. Pas seulement Ambiance et Jeux, j'aurai peut-être quelques autres invités en plus. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, jouez bien.
Merci Olivier pour cette chronique sur Big Book of Madness. Tu y as joué toi ou pas encore ?
Non, j'ai non plus. Pas encore.
Ouais, on va attendre le week-end à Proxy Jeux pour tester ça.
Ah, j'ai vu la liste des jeux qui vont être ramenés.
Ah, t'as déjà fait ton marché ? T'as coché ?
Non, ça, pas encore. Jouer, ça, j'ai juste un petit peu regardé.
Et après, t'as fait le cumul de toutes les heures et tu te dis « Ah mais il n'y a que 4 jours, comment on va faire ?»
C'est ça, bon, on va pas dormir.
Ah bah voilà.
Non mais je vais essayer de ramener les jeux que j'ai chroniqués, histoire ouais. De le présenter en live aussi.
Bah, c'est l'occasion de faire des gros jeux, comme il y a beaucoup de joueurs, de gros joueurs, pas par leur taille, hein, ouais. Par leur manière de jouer. Hein,
bon, avec toute la bière qu'il y aura.
Ok. Bah, du coup, nous, on va s'arrêter là pour ces chroniques. Donc, que vous ayez aimé... tu veux faire la fin ? On peut se faire la fin.
Voilà, attends, nous. J'ai un gros texte à lire alors.
Ouais.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant soit un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Enfin, si les chroniqueurs se motivent pour enseigner le billet, bah bien sûr, comme toujours. Hein. Ouais.
Non, mais t'es le seul à le faire ça. Mais les autres, tu vois, on leur laisse un petit message pour qu'ils comprennent qu'il faut bien qu'ils le fassent, quoi.
Alors pour ceux qui viennent au week-end Proxy Jeu, eh ben, on va se retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, jouez bien.
Cette superbe chronique, c'est super génial. Alors nous, on en profite pour boire de la bière entre temps.
Voilà. On fait un blanc le temps de la durée de la chronique.
Voilà.
Donc il y a 6 minutes de blanc.
Bon après, comme on va pas passer les chroniques, ça va pas être très intéressant pour vous quand même. On se le cache pas. On va même faire des spoilers, hein, attention, parce qu'on va parler des chroniques. Parce que moi, je les ai écoutées en partie. Tu les as écoutés toi
La mienne.
C'est déjà pas mal.